Bonjour Richard Verly.
Bonjour.
Je vous présente en quelques mots, même si vous êtes bien connu des amis de la librairie Mola. Vous êtes éditorialiste international du quotidien suisse Blick, alors la version langue française. Vous avez été correspondant très longtemps pour les journaux suisses à Paris. Vous êtes à Paris, vous êtes consultant sur de nombreux plateaux de télévision, LCI, BFM TV, France Info, France 24, TV5 Monde. Et puis on s'est déjà rencontré deux fois pour présenter deux de vos ouvrages, cher Richard. En 2022, c'était La France contre elle-même avec une idée, j'allais dire, épatante, suivre le tracé de la ligne de démarcation qui a séparé la France entre deux zones, contrairement à ce qu'on dit, pas entre la zone occupée et la zone libre, mais entre la zone occupée et la zone nono, c'est-à-dire non occupée, je
Tout à fait.
précise pour les historiens. Et puis le deuxième livre, c'était 2024 avec François d'Alençon, Ce que la France croit, ce que le monde voit, le bal des illusions. Alors, on va venir à votre ouvrage que je montre à la caméra, qui s'intitule donc Cette Amérique qui nous déteste. On aura l'occasion de retourner l'ouvrage pour regarder la quatrième de couverture, mais ça sera la surprise. J'aurais presque envie de démarrer, mais je vais non seulement presque, mais j'ai envie de démarrer notre entretien, Richard, en citant une citation d'ailleurs, page 146. C'est une citation d'Henry Kissinger. Henry Kissinger, comme on dit maintenant, 1923-2023. Voilà ce qu'il dit. Il peut être dangereux d'être l'ennemi des États-Unis, mais être leur ami est fatal. Alors, c'est pas une phrase qui est prononcée n'importe quand et n'importe où. Vous dites, il plastronne à l'occasion des négociations des accords dits de Paris. Ça va être la signature des accords de paix au Vietnam. En fait, ça veut dire le désengagement américain en 73, qui va laisser le Sud-Vietnam ami des États-Unis, j'allais dire proie très facile pour les communistes nord-vietnamiens. Et ces accords de paix, on se souvient d'ailleurs, Kissinger et Le Duc Tho, le négociateur nord-vietnamien, vont obtenir d'ailleurs le prix Nobel. Il peut être dangereux d'être l'ennemi des États-Unis, mais être leur ennemi est fatal. Vous auriez presque pu la mettre en frontispice de votre livre, cette phrase de Kissinger, Richard.
Absolument, c'est très juste. D'abord, c'est intéressant de faire référence à Henry Kissinger, dont on rappelle, vous venez de le dire, qu'il a eu le prix Nobel de la paix avec le Duc Tho, lequel l'avait refusé. Mais Kissinger a eu ce prix Nobel que Donald Trump veut tellement et que Donald Trump ne cesse de revendiquer. Il en est quasiment aujourd'hui à ordonner les jurés du Nobel norvégien de lui donner le prochain prix. Et à chaque fois qu'il va en visite dans un pays, le Premier ministre ou le président de ce pays signe une lettre à Oslo pour dire Donald Trump mérite le prix Nobel. Voilà, je referme cette parenthèse. Oui, parce que on est dans ce cas de figure en Europe aujourd'hui, c'est-à-dire que il est évident que les Européens ne sont pas les ennemis des États-Unis et ne sont pas les ennemis des États-Unis de Donald Trump, c'est très clair. Mais qu'est-ce que ça rapporte d'être leur ami aujourd'hui? Ça ne rapporte au fond que de la vassalisation, que des ordres, parce que ce n'est pas autre chose. Ce sont des ordres donnés par Washington. Augmentez vos dépenses de défense, ouvrez vos marchés, ne taxez pas les géants du numérique, adoptez notre culture anti-woke, là je parle du Parti républicain au pouvoir actuellement aux États-Unis. Bref, on est dans une situation, comme le disait Kissinger, où lorsque vous êtes ami des États-Unis, vous devez être un ami obéissant, et obéissant un ami aussi qui à tout moment peut être lâché si l'intérêt des États-Unis se trouve ailleurs. Et on peut se poser cette question, est-ce qu'aujourd'hui, les Européens sont tellement sûrs que demain, eh bien, l'intérêt des États-Unis sera de travailler avec eux, de coopérer, de les protéger. Si demain, l'intérêt prioritaire des États-Unis se trouve ailleurs, il y a de fortes chances que les Européens, eux aussi, soient abandonnés, comme l'ont été d'autres alliés américains, même si on ne peut pas faire la comparaison. On pense bien sûr au Vietnam, on pense à l'Afghanistan, on pense à l'Irak. Tous ces pays qui avaient cru, ou plus exactement, où une partie de l'élite avaient cru dans le soutien américain, se sont trouvés complètement lâchés lorsque les États-Unis ont tourné Kazakh.
Alors cette réflexion est particulièrement passionnante, Richard, parce que, j'allais dire, elle nous dégage aussi de l'immédiateté du temps présent. Parce que on voit bien que Trump n'était pas au pouvoir quand les Américains ont lâché le Vietnam. Il n'était pas au pouvoir quand les Américains ont lâché l'Afghanistan, même, hein, plus récemment. Et il n'était pas non plus au pouvoir lorsque les Américains se sont désengagés, on va dire, même si c'était pas l'Iran, mais comment les Américains ont aussi laissé tomber l'Iran. Hein. Et donc, d'une certaine manière, ça remet aussi en perspective, sur le temps long, la position des États-Unis.
Oui, absolument. Donald Trump, alors, on le dit souvent, moi je le détaille dans mon livre à propos de l'Europe et de l'attitude vis-à-vis des Européens, il n'est pas une anomalie, Donald Trump. Ce serait une erreur de penser que Trump et son équipe, c'est une anomalie dans l'histoire américaine. Sous-entendu, le jour où Trump quittera le pouvoir, a priori à l'issue de ce second mandat, eh bien, les choses redeviendront normales. Non, ce n'est pas vrai. Trump est au fond la traduction exagérée, caricaturale, parce que le personnage est comme ça, de ce qui est une vraie lame de fond américaine. Et cette lame de fond américaine, moi, je pourrais la résumer en deux mots. D'abord, c'est une volonté inassouvie de puissance. L'Amérique n'acceptera jamais d'être la seconde puissance mondiale. Elle se vit, elle se veut comme la première puissance mondiale. Et ça, avec Trump, on en a la traduction tous les jours. Et la deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, ces États-Unis ne sont plus des États-Unis qui se définissent existentiellement par leurs relations transatlantiques. C'est fini. On l'avait beaucoup dit avec Obama à propos de ce pivot vers le Pacifique. On l'a dit à propos de l'immigration latino-américaine qui ramène les États-Unis vers la partie sud du continent. Mais au fond, ça devient culturel. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les racines européennes des familles américaines, eh bien, elles se sont dissipées. Les Américains d'aujourd'hui, j'allais presque dire, si vous écoutez Elon Musk, il est plus préoccupé de Mars, de la planète Mars, et de coloniser Mars, que de garder des liens avec l'Europe, des liens transatlantiques. Voilà l'Amérique à laquelle on a affaire. Sa projection de puissance, elle ne passe plus par la coopération et, j'allais dire, la fraternité avec l'Europe.
Alors, on revient sur le livre. J'explique un peu le pitch. Vous avez fait 4000 miles de route, hein, c'est-à-dire grosso modo 7000 kilomètres, à peu près. Hein,
ça fait.
De septembre à décembre 2024, et puis vous êtes revenu quelques semaines aussi au printemps 2025, et votre circuit, enfin votre parcours, c'est de Chicago quasiment à Palm Beach, enfin à Mar-a-Lago, à côté du fameux camp de base, si je puis dire, le fameux golf de Donald Trump. Et alors, vous dites, j'ai décidé d'écrire ce livre sur un coup de tête, ou plutôt sur un coup de sang, contre mes convictions, car vous l'avez dit déjà au début de notre échange, Richard, vous n'êtes pas du tout anti-américain, vous dites d'ailleurs dans votre conclusion, j'ai toujours, ça m'a insupporté le discours commode, y compris d'intellectuel français, surtout, y compris, là, vous dites gaullo-communiste, qui se complaisait dans l'anti-américanisme. Bref, on a compris que vous n'êtes pas Jean-Luc Mélenchon. Mais qu'est-ce que vous voulez dire pourquoi tout d'un coup ce coup de sang?
Parce que cette Amérique, j'ai découvert lors de ce périple une Amérique proprement effrayante, et je pèse mes mots. C'est-à-dire une Amérique qui, vis-à-vis de l'Europe, n'a plus envie. On pourrait dire les choses comme ça. Au fond, sur quoi a reposé la relation entre les États-Unis et l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale? Alors bien sûr, il y avait la domination américaine qui était le résultat de la victoire des Alliés en Europe occidentale, mais ensuite, cette domination américaine s'est transformée en envie mutuelle. Les États-Unis des années 50, des années 60 ont envie d'Europe. D'ailleurs, ils dépensent beaucoup d'argent avec le plan Marshall. Ils dépensent pour l'Europe. Ils dépensent pour la création de la communauté européenne. On l'oublie. Mais c'est cette communauté européenne que Donald Trump diabolise aujourd'hui, elle est largement le résultat d'une volonté américaine d'avoir un seul interlocuteur, un interlocuteur uni en Europe. Et puis, du côté européen, vous aviez l'envie qu'on connaît tous, c'est-à-dire l'envie, j'allais presque dire, de cette culture américaine, qu'elle soit la culture de la révolte avec la Beat Generation dans les années 60, la culture du cow-boy ou la culture new-yorkaise. Bref, il y avait cette attirance et cette envie mutuelle. Aujourd'hui, j'ai découvert une Amérique qui n'a plus envie, qui n'a plus envie de l'Europe et qui nous le jette à la figure. Parce que c'est plus que du dépit amoureux. Ça devient de la colère, en ce sens que l'Amérique d'aujourd'hui est une Amérique qui sanctifie la brutalité. Et ça, c'est la spécificité de Trump et de son administration. C'est une Amérique, on l'a dit, le mot qu'on utilise souvent, viriliste, masculiniste. C'est une Amérique où, si vous ne pesez pas, si vous n'êtes pas capable de taper du poing sur la table, vous êtes en gros une poule mouillée à leurs yeux. Vous n'êtes pas intéressant. Et si en plus, vous ajoutez à ça la volonté de réglementer pour l'écologie, pour le droit des citoyens, pour le numérique, et qu'en plus vous rajoutez des taxes, ce qui est le cas quand même en Europe, là vous devenez carrément le diable. Et donc j'ai découvert ça, et ce qui m'a beaucoup surpris, je m'attendais à trouver ça dans les cercles républicains, intellectuels, la droite, on pourrait dire la droite profonde américaine. Mais je l'ai trouvé au sein de la population. Ce désintérêt, ce désamour vers l'Europe, et quand même cette aigreur, cette colère qui consiste à dire « Vous, les Européens, non seulement vous êtes faibles et vous incarnez une forme de décadence occidentale, mais en plus vous prétendez nous donner des leçons à nous, les Européens, à nous, les Américains, pardon, alors qu'on est les plus forts. » Et donc, je me suis dit, après 2, 3, 4 rencontres de ce type, ce ne sont plus des témoignages isolés, c'est une réalité américaine qu'il faut raconter, et comme je l'écris dans le livre, notre Amérique, celle qu'on a connue dans les années 60, 70, 80, 90, cette Amérique, il faut qu'on s'y résigne, elle n'existe plus.
Et alors, ce qui est assez pathétique, si je puis dire, c'est que vous expliquez aussi, toujours au début dans votre introduction, que cette Amérique qui nous méprise, parce que vous employez le mot mépris, hein, alors j'allais dire aussi bien chez les Trumpistes du premier cercle, chez le mentor politique de J.D. Vance, dont il faut rappeler qu'il n'a que 41 ans, hein, qui s'appelle Peter Thiel, hein, qui est un des cofondateurs de PayPal avec Elon Musk, et qui est l'idéologue numéro un. Hein. Ils ont en commun avec Musk d'être sud-africains.
Peter Thiel est allemand, oui. Mais il a grandi en Afrique du Sud avec sa famille.
Oui. Sous le régime de l'apartheid. Hein.
Oui, tout à fait.
C'est pas des zélotes de Nelson
Alors
Mandela.
Alors que Elon Musk, lui, est sud-africain.
Exactement.
Il a grandi en Afrique du Sud. Il est devenu par la suite canadien puis américain.
Ce qui fait que Elon Musk, comme Kissinger qu'on a cité, ne pourra normalement jamais être président des États-Unis, puisque il faut être né sur le territoire américain. Alors oui, et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que vous dites aussi que cette attitude contre nous, contre les Européens, elle nous dérange et donc nous en parlons pas, parce que quelque part elle nous bouscule aussi dans cette relation d'amitié américano-européenne, quoi. Voilà.
Ma conviction, et là on est dans le domaine de l'opinion, ça peut bien sûr être contesté, je le livre au débat, c'est que une des choses qui nous paralyse en Europe, y compris en France, malgré la tradition anti-américaine qu'on a évoquée tout à l'heure, une des choses qui nous paralyse, c'est cette incapacité à voir que l'Amérique a changé. Nous voulons toujours croire à l'Amérique d'hier. Et c'est normal, parce que les dirigeants d'aujourd'hui, qui ont tous plus ou moins la quarantaine, la cinquantaine, ont encore grandi dans cette idée d'une Amérique enracinée en Europe, dans cette idée d'une amitié finalement qui surmontera toutes les épreuves, dans cette idée d'une alliance, l'OTAN, qui était la garantie de sécurité la plus inébranlable qui soit. Et donc, faire notre révolution culturelle, parce que c'en est une, et accepter que nous avons de l'autre côté de l'Atlantique une Amérique qui est en colère, qui nous méprise et qui, en tout cas, ne nous considère que comme des sujets, non pas comme des partenaires, mais comme des sujets, c'est-à-dire plus que des vassaux, en réalité. Nous devons obéir. Il n'y a rien à négocier, ou quasiment. Eh bien, ça, nous n'y sommes pas prêts. Et donc, la raison pour laquelle j'ai fait ce livre aussi, c'est de dire, ouvrons les yeux. Ça ne veut pas dire qu'on va confronter systématiquement l'Amérique. Ça ne veut évidemment pas dire qu'on va entrer en guerre ou quoi que ce soit. Ça veut dire simplement que les Américains d'aujourd'hui ne sont plus nos partenaires obligés et nos partenaires, je dirais, systématiquement bien intentionnés. C'est comme ça, il faut l'accepter. Et ce serait une erreur de croire que c'est seulement le cas pour quelques individus de la galaxie Trump. c'est beaucoup plus profond. Le centre de gravité culturelle, géopolitique, économique de l'Amérique a changé.
Alors c'est tout un des intérêts de votre ouvrage qui est vraiment passionnant, car on va les voir s'exprimer, on va les entendre s'exprimer, ces Américains, alors que certains appellent les fameux rednecks, mais c'est, ça va bien au-delà de ça. Les rednecks, c'est ceux qui ont le cou rouge parce qu'ils travaillent hein, dans les grandes plaines, hein, voilà, ou dans un certain nombre d'ateliers. Et puis c'est ceux, comme on dit, qui voient passer les avions coast to coast, hein, côte est, côte ouest, mais qui sont, en tous les cas, c'est pas forcément ceux que les médias occidentaux interrogent en ne sortant pas de New York, hein, parce que ceux-là, pour certains, ils parlent parfaitement français, ils ont même parfois vécu en France. Hein. Alors, il y a trois grandes parties dans votre livre, il y a 12 chapitres, et chacune des parties donc contient 4 chapitres. Première partie, l'Amérique et nous, avec, alors cette fois-ci, il y a 4 R, E-R-E-S, les Trump et nous, cette fois-ci, il y a 4 retours, et puis les Américains et nous, dernière partie, troisième partie, et là, il y a 4 face à quelque chose. Hein. Alors, un petit retour en arrière quand même. Cette forme de mépris pour les origines européennes, vous dites, on en a trouvé des traces dans la pensée politique ou philosophie politique américaine au 19e. C'est pas un hasard. Et alors, vous citez évidemment 3 noms qui sont connus, hein, Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman et puis Henry David Thoreau. Je précise d'ailleurs qu'une partie de la gauche intellectuelle française s'était entichée de Thoreau.
Hein, c'est très juste.
Sur le mode un peu justement du libertarisme anti-étatique, quoi. Hein, voilà. Hein, bon, voilà. Donc ces auteurs qui sont, pour faire court, qui vivent entre 1800 et 1890, ils ont à l'égard de l'Europe une forme de bénignité en quelque sorte.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez un courant intellectuel américain, vous avez toujours eu 2 courants intellectuels américains. D'abord, vous avez ce qu'on pourrait appeler le courant de la revanche. C'est-à-dire que ces Américains qui savent que leurs racines sont européennes, mais qui se souviennent aussi dans quelles conditions leurs familles ont quitté l'Europe. Oui. Souvent des conditions de misère, des conditions de persécution, et qui en veulent à l'Europe. Même s'ils ne le disent pas systématiquement, ils en veulent à l'Europe. Ça, c'est un courant qui a toujours existé aux États-Unis et qui finalement est le produit de l'histoire. Mmh. Il faut bien l'accepter. Mmh. Et puis le deuxième courant que vous avez, c'est un courant qui défend l'idée d'une Amérique qui soit un autre modèle. Oui. Et c'est cette idée, l'Amérique qui soit l'incarnation d'une nouvelle république. Et les deux se rejoignent. Et au fond, chez Donald Trump, de manière, encore une fois, trumpiste, c'est-à-dire exagéré, c'est-à-dire pondéré par l'argent et le profit, ça, ce sont quand même les moteurs principaux pour Donald Trump, vous avez ces deux éléments. Donald Trump, il faut quand même le dire, vient d'une famille originaire d'Allemagne.
Alors, vous y êtes allé, hein, à Karlstadt.
Absolument, à Karlstadt. Voilà. Donald Trump, et ça aussi, on l'oublie parce qu'il est très en forme, il a quand même, Donald Trump, bientôt 80 ans, et c'est la troisième génération d'immigrants. C'est-à-dire, c'est son grand-père, Frédéric Trump, qui avait mis le pied aux États-Unis.
C'est récent, c'est très récent.
Absolument, c'est assez récent. Ouais, ouais. Et son grand-père était venu d'abord à New York. Ensuite, il est parti faire fortune dans le Yukon, qui est aujourd'hui au Canada, donc à l'extrême nord-ouest des États-Unis, où il a monté des établissements hôteliers, certains disent quelques maisons de passe au passage. Il est rentré au pays chercher une épouse, ce qu'il a trouvé. Et là, c'était pas une Allemande, c'est une Écossaise qui l'a mariée. Et il est reparti aux États-Unis, ce Frédéric Trump, qui est le fondateur de la dynastie. Mmh. À ne pas confondre avec Fred Trump, qui lui est le père de Donald Trump. Pourquoi je dis ça? C'est parce que vous avez chez Donald Trump regardez sa relation avec les Allemands. Elle est très mauvaise. Mmh. Il considère vraiment les Allemands comme des laquais. C'est un peuple qui ne l'intéresse pas. C'est un peuple industriel. C'est un peuple qui a des valeurs qui ne sont pas les valeurs de Trump. Vous savez, l'Allemagne, il y a bien sûr des grands capitalistes, mais c'est un peu la terre, on l'a beaucoup dit, du capitalisme rhénan, oui. C'est-à-dire le capitalisme du partage. Le capitalisme du partage, ce n'est pas du tout le capitalisme de Trump. Le capitalisme de Trump, c'est celui de l'appropriation individuelle maximale. Donc, il est dans ce ressentiment culturel, Donald Trump. Et à ça s'ajoute, il est dans l'exception américaine. Le « Make America Great Again », le « America First », cette idée que l'Amérique est un pays unique. D'ailleurs, il le dit, l'Amérique est un pays unique, il n'y en a pas de meilleur, l'Amérique est le plus beau pays du monde. Et donc, vous avez là, à travers Donald Trump, encore une fois, avec le filtre de l'époque et le filtre de sa personnalité, se rejoignent ces deux éléments, le ressentiment d'une part, réel, et l'aspiration et la conviction que l'Amérique est un pays que personne ne pourra jamais égaler. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle de l'arrogance, oui, simplement. Et donc, ce mélange de ressentiment et d'arrogance, voilà à quoi nous, les Européens, on doit faire face. Et c'est pour ça qu'à mon sens, les Américains nous détestent.
Alors, je précise, mais ça, le lecteur le trouvera dans le livre, que vous rappelez, ça, c'est pas anecdotique, se trouve que ça fait partie de ces clins d'œil, c'est que dans cette ville de Kallstadt, il y a une autre famille américaine, c'est les Heinz, que l'on connaît par cœur, puisque c'est le tomato ketchup, qui est aussi originaire de la même cité, sauf que là, on est plutôt... Alors, c'est vrai que Heinz, le patron... C'était un bon républicain modéré, hein, qui est mort, vous dites, dans un accident. Et puis, mais par contre, quand la veuve Heinz s'est remariée, alors là, c'était la totale, elle a épousé John Kerry, qui a été vice-président des États-Unis, candidat démocrate il a été secrétaire d'État
Secrétaire d'État. Voilà, et ensuite, voilà, il a été nommé, oui, tsar, entre guillemets, chargé de l'écologie, ça, voilà, par Joe Biden.
Et lui, il a des racines françaises. Alors, c'est la totale. Enfin, il a une partie de la famille apparentée à Brice Lalonde. Donc, vous voyez un peu, pour Trump, c'est effectivement, c'est le répulsif, ça. Alors, on arrive dans le premier chapitre. Vous avez l'ère des brutes, l'ère des prédateurs, l'ère des profiteurs et l'ère des destructeurs. Il faut dire quelques mots sur l'ère des brutes. Vous commencez par votre road trip. Vous commencez en allant à Waterloo. Alors, je crois que les Américains disent Waterloo, j'imagine. Hein, mais il y en a une quinzaine, vous dites, de Waterloo aux États-Unis. Là, c'est très intéressant parce que vous découvrez que c'est la ville natale d'un professeur de sociologie et de philosophie politique qui s'appelle Carl Lotus Baker.
Tout à fait.
À ne pas confondre avec l'autre sociologue Baker qui a écrit Street Corner, la société au coin de la rue, Street Corner Society.
Oui.
Hein. Oui. Mais là, c'est Carl Lotus. Alors, il a quand même enseigné à l'université de Cornell, qui est une des grandes universités de ce qu'on appelle la Ivy League. Qu'est-ce qu'il dit, Carl Lotus Baker ? Il est mort en 1945, et c'est intéressant, parce que vous le trouvez à la Public Library de Waterloo.
Tout à fait. Alors, Carl Lotus Baker, c'est très intéressant, c'est un de ces penseurs qui a imbibé l'Amérique des années 30. Et je ne le connaissais pas. Je le découvre, j'arrive à Waterloo dans l'Iowa. Et pourquoi je vais à cet endroit? D'abord parce que c'est plus ou moins sur mon parcours. Et quand on fait ce type de road trip, on se laisse régulièrement un peu happé par les événements. On n'a pas tout cartographié dès le départ. Donc le nom de la ville m'intéresse. Et j'avais repéré, j'en parle dans le livre, qu'il y a à Waterloo le musée John Deere. Et John Deere, pour à peu près tout le monde, ceux qui sillonnent les campagnes, notamment françaises, belges ou suisses, c'est une marque de tracteur que vous ne pouvez pas ne pas connaître. Vous avez, à la sortie de la guerre, les Massey Ferguson, qui étaient donnés avec le plan Marshall, et ensuite, vous avez eu les John Deere qui sont arrivés. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant d'aller voir cette Amérique-là. Et je tombe à la librairie, à la bibliothèque, sur les ouvrages de Carl Lotus Baker, qui est quelqu'un qui, justement, lui, contrairement à Trump, s'est toujours posé la question, est-ce que l'exceptionnalisme américain est au fond dangereux? C'est ça la question que pose Baker. C'est notre exceptionnalisme américain, est-il ou contient-il un danger inhérent, y compris d'ailleurs un danger d'autoritarisme? Et à l'époque, il le voit et il le dit. Il dit, on est au sortir de la crise de 1929, il dit, ce pays ne sera... Je fais bref, hein, je ne cite pas la citation dans le détail... Ce pays ne sera jamais fasciste, sauf, trois points de suspension, si une triple crise devait survenir, une crise politique, une crise sociale et une crise économique. Autrement dit, Karl Lotus Baker, il suffit d'aller sur Internet et vous verrez son nom, c'est un de ces penseurs qui, lui, a perçu le danger inhérent à une Amérique qui deviendrait trop arrogante, qui deviendrait trop forte, et c'est l'Amérique de Trump.
Oui, et c'est 5 ou 6 ans avant le McCarthyisme, d'ailleurs. Hein.
Absolument, ouais, absolument. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans cette Amérique, il y a toujours eu des esprits éclairés, Karl Lotus Baker en fait partie, qui ont su être lucides sur leur pays tout en, et c'est très important, tout en étant convaincus de son exceptionnalité. Et puis, vous en avez d'autres, des politiques comme Donald Trump, qui veulent mettre, qui n'ont d'autre vue que la puissance et le profit. Et donc, encore une fois, qu'est-ce qu'ils ne supportent pas en Europe? Et c'est là la question. En Europe, et le débat est ouvert, et le débat, tous les jours, il est très très fort en France sur ce sujet. Qu'est-ce que l'Union européenne, sinon la tentative de pondérer l'appétit de puissance, de pondérer le nationalisme par, justement, une forme de semi-fédéralisme, d'étatisme dans beaucoup de domaines, on veut tenir l'État-providence. Bref, l'Union européenne, c'est une façon de se dire qu'on va réussir à nous préserver du pire à travers, je dirais, un certain nombre de mesures qui vont de l'État-providence, je le disais, à l'espace de libre circulation. Eh bien ça, cette Amérique-là ne le supporte pas, ne le comprend pas d'abord. Elle ne le comprend pas. Et Donald Trump, à bien des égards, ne comprend pas l'Union européenne. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui se mettent ensemble, alors que finalement, ils seraient tous à l'intérieur de leurs frontières à faire du business avec moi? Ça irait beaucoup mieux.
Alors,
voilà, donc, il y a une incompréhension.
Greg, le mécano qui vérifie votre van avant que vous partiez avec, bon, il regarde. Alors, vous dites, c'est un homosexuel, il vote Trump, hein?
Oui.
Et lui, il vous dit, il y a un truc que vous comprenez pas chez nous, les Américains, nous sommes en colère.
Oui.
Alors ça, c'est dans le chapitre sur les brutes.
Tout à fait.
Parce qu'on voit bien qu'il y a une violence, vous l'avez parlé de virilisme, vous dites la passion de Trump, de Hexet, le nouveau secrétaire à la Défense, de Linda McMahon, qui a l'air d'être quelqu'un de très particulier, qui est ministre de l'Éducation. Bon, même si ministre de l'Éducation aux États-Unis, c'est pas tout, quand on est ministre de l'Éducation fédérale, c'est pas tout à fait la même chose que ministre de l'Éducation en France. Mais et donc, ce Greg là, il vous dit, on est en colère. Là, ils sont en colère après quoi?
Ils sont en colère après essentiellement 3 choses, les Américains et cette Amérique là.
Oui.
D'abord, ils sont en colère parce que leurs dernières interventions extérieures, leurs dernières guerres ont tout échoué.
Oui.
Voilà. Et ça, le Greg dont je parle, son frère était déployé en Irak. Il faut savoir que, contrairement à la France, et c'est ça qu'on a de la peine à comprendre, vous avez beaucoup de familles américaines qui ont des anciens combattants dans leur rang. Les combats, ça ne remonte pas à la Seconde Guerre mondiale. C'est une Amérique qui a mobilisé en masse, alors à travers une armée professionnelle, mais une armée très nombreuse pour les opérations en Irak ou en Afghanistan. Donc il n'est absolument pas rare aux États-Unis, vous allez au Walmart et vous allez croiser un vétéran avec son épouse et ses enfants. Ce sont des choses qui arrivent quand même moins en France. Vous ne croisez pas tous les matins un militaire qui a combattu en Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, d'abord, ils sont en colère parce qu'ils ont perdu des guerres. Et ils veulent prendre leur revanche. Ils ne le disent pas comme ça, mais c'est la réalité. Ils estiment qu'ils ont injustement perdu cette génération-là, qu'elle a été en quelque sorte sacrifiée. Et les combats en Afghanistan ont été très durs. Les combats en Irak ont été très durs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils sont en colère parce que la machine américaine, la machine au sens large, ne peut fonctionner que si elle génère beaucoup de profits. Et donc, ils veulent faire rentrer de l'argent. Et tous les Américains, Tocqueville le disait, je le cite, sont obsédés par l'idée de faire rentrer du cash. Et c'est une colère qui les anime, parce que c'est pas comme, je dirais, nos systèmes d'État-providence, où entre un revenu par foyer, peut-être des allocations, ce n'est jamais facile, mais on peut avoir le matelas, en quelque sorte. Aux États-Unis, le matelas, ça n'existe pas. Vous devez vous battre tous les jours pour gagner votre pain et votre revenu. Et puis, la troisième chose, ils sont en colère, eh bien, parce qu'ils sont manipulés. Parce que les réseaux sociaux les manipulent. Parce que les réseaux sociaux leur disent qu'ils sont les meilleurs, que les autres sont mauvais, que les immigrants leur piquent leur job, etc. Donc, si vous ajoutez le ressentiment des guerres récentes, l'inquiétude féroce de ne pas gagner assez d'argent et la propagande des réseaux sociaux, oui, vous avez une Amérique en colère.
Alors, vous l'avez dit en citant Tocqueville, deuxième chapitre de cette première partie, on va avancer, l'ère des prédateurs. Alors, vous faites un retour en arrière en citant Gordon Jekyll, qui est alias Michael Douglas dans le film d'Oliver Stone, qui est ancien, hein, Wall Street, hein, c'est 87. Il a cette phrase « Greed is good ». Alors, je vais vous laisser la traduire, Richard. « Greed is good », parce qu'on voit bien, en particulier par l'épisode des crypto-monnaies, et vous l'avez dit, que Trump, c'est quand même aussi un obsédé du fric. Ça, c'est véritablement quelque chose qui est... Trump et ses amis, hein, voilà.
Trump est un dirigeant cupide.
Oui.
La phrase de Gordon Gekko dans le film, c'est « Greed is good », la cupidité, c'est bien. Ou l'appât du gain, c'est bien. Voilà, c'est Trump. Et ça, regardez tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, à un moment donné, il le fait au nom de l'argent. Soit l'argent rapporté aux États-Unis, c'est les fameux contrats à chaque fois qu'il va quelque part. Par exemple, récemment, il a vu l'émir de Dubaï. Il lui a dit devant les caméras, disons, vous pesez lourd, vous pesez plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc, il y a une référence permanente à l'argent. Et d'ailleurs, une partie de l'accord commercial passé avec l'Union européenne, c'est la promesse d'investir aux États-Unis. Et Trump a fait un message sur son réseau social en disant « Les Européens vont me donner 600 milliards d'euros que je pourrai investir comme je veux, en majuscule, comme je veux. » Donc, il y a la passion de l'argent chez Trump. Et ça va au-delà. Il y a la conviction que l'argent règle tout. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que ce sont des prédateurs. Non seulement ils sont convaincus, ils sont obsédés par l'argent, mais ils pensent que tout s'achète. Voilà, une phrase. Trump est convaincu que tout s'achète, y compris le prix Nobel. Pardonnez-moi, mais c'est un peu ça. Tout s'achète. Et donc, voilà là aussi à quoi nous avons affaire. À une Amérique qui... Alors, soit vous partagez cette idéologie, et c'est possible, c'est pas du tout interdit de penser la même chose, mais si vous ne la partagez pas, si vous ne pensez pas que l'argent est le point focal d'une société, si vous ne pensez pas que tout s'achète, eh bien, vous êtes amené à vous opposer à cette Amérique-là, et à ce moment-là, eh bien, vous vous prenez en retour la riposte américaine et leur détestation.
Chapitre de cette première partie, les destructeurs, alors on a tendance à se dire, mais destructeurs de quoi? Et là, pour comprendre, il y a cette phrase de Steve Bannon qui a été l'idéologue du premier mandat, hein,
avec qui maintenant défend l'idée d'un troisième mandat de Trump.
Voilà, c'est ça. Hein, alors, ce qui est strictement interdit, évidemment, par la Constitution. Vous dites même que Trump, quand il fait visiter un peu, non pas son musée aux horreurs, mais il a une salle où il a des gadgets de sa réélection. Il y a une casquette. Qui montre, si j'ai bien lu, Trump 2028. Hein.
Une casquette qu'il a même montrée aux dirigeants européens lorsqu'ils se sont rendus à Washington en août. Il s'est fait un malin plaisir de leur montrer la casquette MAGA 2028.
Voilà. La phrase de Bannon, c'est « Je suis un léniniste ». Alors, évidemment, ça peut choquer ou ça peut surprendre. Mais alors, on comprend, hein, dans la théorie marxiste-léniniste, c'est la disparition de l'État. Hein, lorsque la société sans classe sera advenue et la société communiste. Mais le Doge, d'ailleurs, c'est un acronyme qui est quand même tout à fait dans la novlangue, hein, pour le coup, pour des équipes que l'on croirait incultes, sont pas incultes, hein, parce que la référence, elle est quand même historiquement très intéressante.
Tout à fait.
Hein,
tout à fait.
Avec le Doge de Venise, quand même. Hein, voilà.
Absolument.
Hein, bon. Ce que fait Musk avec ses 38 milliards de alors qu'il a 38 milliards de dollars de financement public,
Oui.
Ça, c'est absolument incroyable. Enfin, c'est spectaculaire. Il y a une volonté de détruire l'État où elle tient, par exemple.
Oui, absolument. Pourquoi ils veulent détruire cet État ? Parce que derrière Donald Trump, et c'est ce qu'il faut comprendre, vous avez une oligarchie. Ce n'est pas un hasard si le sénateur du Vermont, le sénateur indépendant Bernie Sanders, parcourt l'Amérique avec ce slogan « Fight oligarchie », combattre l'oligarchie. Vous avez un système d'oligarques assez comparable, comparaison n'est pas raison, avec la Russie de Vladimir Poutine, qui est entourée d'oligarques. C'est-à-dire c'est un pouvoir qui s'appuie sur des puissances financières. Prenez la destruction très controversée de l'aile est de la Maison-Blanche, qui est intervenue après mon livre, après que j'ai rendu ce livre. Trump construit une salle de bal. Tous les frais de cette salle de bal seront couverts par des financiers. Alors ça, vous avez deux manières de le voir. Soit vous applaudissez, vous dites c'est formidable, ça ne coûte rien à l'État, c'est des dons privés, c'est une manière de voir les choses. Soit vous vous dites au fond, ces gens, ils ne donnent pas sans recevoir, ils ne donnent pas sans avoir leur mot à dire. Et c'est exactement ce qui se passe. Et donc pourquoi ils veulent casser l'État ? Parce que c'est l'État qui s'oppose à leur domination. Et ils ont quand même, tous ces gens, le souvenir de l'époque Roosevelt, où à la fin, les cartels ont été démantelés. Et ils vivent l'État comme quelque chose de fondamentalement dangereux pour les libertés individuelles, ça c'est le discours libertarien d'Elon Musk, mais aussi pour leurs intérêts économiques, parce que ce qu'ils redoutent, les fameux GAFAM, les géants de l'Internet, c'est un jour d'être démantelés parce qu'ils sont de facto des cartels.
D'accord. Alors la deuxième partie est Trump et nous, c'est sous-titré de la revanche aux raquettes. Alors là, il y a quatre retours. Le retour de la colère, on en a parlé tout à l'heure. Le retour de l'arrogance, le retour du racket et le retour des dictats. Je voudrais qu'on aborde un livre qui a été un peu le livre manifeste sur lequel s'est appuyé le mouvement MAGA. C'est The Great Betrayal, la grande trahison de 98 du révérend Paul Buchanan. Là, vous dites, il y a populisme, conservatisme et traditionnalisme. Cette espèce de triangulation, oui. Il faut que vous nous en parliez parce qu'on a le sentiment qu'on touche là le soubassement, la fondation presque philosophique de cette partie de la vie politique américaine.
Oui, l'administration Trump aujourd'hui, c'est au fond la réunion de deux trajectoires. Une trajectoire individuelle, solitaire, de Donald Trump. Donald Trump qui, en quelque sorte, s'est fait tout seul au niveau politique. Personne ne voulait de lui. Il s'est imposé par la télé-réalité, il s'est imposé par les médias, il s'est imposé par sa personnalité. Donc ça, c'est le Trumpisme. Et le Trumpisme a des adeptes, évidemment. Il regroupe des gens autour de lui et il a rejoint un courant de fond du Parti républicain incarné par Pat Buchanan, ce qu'on pourrait appeler la révolte anti-élite et la révolte anti-contre-culture sous toutes ses formes, anti-valeurs. Révolte anti-élite, révolte anti-valeurs, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est une Amérique qui pense que les élites ont pris le pouvoir et qu'elles ne le rendent pas au peuple, qu'elles le manipulent. C'est tout ce qu'on appelle aujourd'hui le complotisme, ni plus ni moins. Et d'autre part, c'est une révolte contre la destruction de l'Église, des valeurs traditionnelles, des valeurs familiales qui ont assuré la cohésion du pays aussi contre les immigrants. Ne l'oublions pas, c'est ça. Et donc vous avez ces deux choses qui se rejoignent, cette trajectoire tout à fait particulière de Trump et ce combat pour les valeurs, pour une Amérique ancrée dans un certain nombre de traditions, et ce qu'on pourrait résumer par famille, travail, Église.
Alors c'est tout à fait notable, en particulier dans le fameux Project 2025, hein, 2025, de la Heritage Foundation, qui, elle, est le véritable think tank qui, en fait, travaille à bas bruit depuis 25 ans, hein, pour organiser, pour donner du concept à tout cela. Et on a le sentiment que par rapport au premier mandat de Trump, où là, par exemple, on avait une Sarah Palin qui était quand même un peu, j'allais dire, folklore, cette fois-ci, ils se sont professionnalisés dans la théorisation de leur démarche. Je me trompe ou pas? Parce que J.D. Vance, c'est vraiment avec les Hillbilly Elegy, là, c'est sa biographie. Il est vraiment, je pense, dans cette conception-là, théorisant.
Oui, au fond, si on prolonge avec ce que j'ai dit avant, le premier mandat de Donald Trump, c'est la trajectoire individuelle. Donald Trump arrive à la Maison-Blanche par surprise. Les sondages ne l'ont pas vu venir. Je rappelle qu'il perd le vote populaire en 2016, mais il l'emporte grâce au système des grands électeurs. Il arrive à la Maison-Blanche et même le Parti républicain est désarçonné. Et c'est pour ça qu'il s'entoure, j'allais dire, de personnalités qui ne partagent pas ses vues, qui n'adhèrent pas à son itinéraire, qui n'adhèrent pas à sa manière de faire.
Mais c'est eux qu'on appelle les adultes dans la pièce.
Voilà, exactement. Ouais. C'est eux qui vont le brider.
Ouais.
Le Trump du deuxième mandat, et c'est là où ça nous amène à Project 25, il est complètement différent. D'abord, le Trump du deuxième mandat, il a une tribu derrière lui. C'est-à-dire que son itinéraire individuel est devenu une destinée collective. Mmh. Il n'est plus le Donald Trump ancien promoteur immobilier. Mmh. Il est le Donald Trump déjà président des États-Unis. Ça change tout. La deuxième chose, c'est qu'il a autour de lui une élite intellectuelle. Il a réussi à agréger des gens qui voient en lui l'occasion de changer la société et qui théorisent cela pour lui. Et c'est notamment les gens de la Fondation Heritage avec Stephen Miller, qui est maintenant le chef de cabinet adjoint à la Maison-Blanche. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont un programme. Eux, contrairement à Trump, ils ont un programme pour la société américaine. Ils ont un programme pour l'avenir. Ils ne jurent pas que par le profit à court terme, si je puis dire. Et puis, autre élément important pour bien comprendre ce qui s'est passé, vous parliez de J.D. Vance, le vice-président. J.D. Vance, il incarne le lien parfait, et ça c'est ce qui fait l'histoire, entre un destin américain populaire à travers sa propre histoire dans les Appalaches. Moi je suis allé dans le village dont il est originaire, d'où était sa grand-mère, Panbull Branch, dans le nord du Kentucky, à la lisière de la Virginie. Donc, il est le produit de cette Amérique populaire, rurale, ouvrière, puisque les Appalaches, c'est un pays minier. Ce sont des mines, mais au cœur de la forêt. Et il incarne l'oligarchie financière, puisque son principal soutien, c'est Peter Thiel. Et donc là, vous avez le lien qui manquait. Au fond, le Trump du premier mandat, c'était une sorte de bouée larguée au large qui n'avait pas d'amarre. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, Trump, il est relié à l'Amérique profonde par des gens comme J.D. Vance.
Vous dites, à propos de l'arrogance, qu'il y a trois reproches que Trump fait aux Européens. L'Europe est contre l'autoritarisme et l'illibéralisme. Alors, même si en Europe, il y a des traces ou il y a des îlots, on pourrait dire, évidemment, on passe à la Hongrie, de Orban, bien sûr, on pense à la Slovaquie, on pense aussi à une partie du conservatisme polonais, hein, avec le parti de PiS, de Kaczynski. Il y a, deuxième reproche, la primauté que l'Europe réserve à la paix. Alors là, effectivement, vous parliez de considération d'être des poules mouillées. Et puis, là, c'est presque plus intéressant, c'est la mauvaise conscience anticoloniale. Alors, ça ne frappe pas tous les pays européens. Enfin, en tous les cas, ça frappe la France, là, très, très clairement.
Et oui, voilà. Faut bien comprendre que... D'ailleurs, regardez ce que fait au quotidien Donald Trump. Donald Trump, il a deux obsessions. L'obsession des ressources naturelles, et je mets là-dedans hydrocarbures, je mets les terres rares, il en parle sans arrêt. Obsession des ressources naturelles, et il a l'obsession de la sphère d'influence. Autrement dit, l'Amérique latine fait partie de la sphère d'influence américaine. C'est ce qu'on appelle le retour des empires. Eh bien, en Europe, vous n'avez ni l'un ni l'autre. Vous n'avez pas de ressources naturelles. Et quand il y en a, les Européens s'interdisent de les exploiter. C'est la question du gaz de schiste. Et d'autre part, les Européens ont commis à ses yeux un péché quasi mortel, qui est d'avoir renoncé à leur colonie qui leur donnait justement accès à ces matières premières tellement indispensables. Donc, autrement dit, on a tout raté pour Donald Trump. On a tout raté. On s'interdit d'obtenir les ressources indispensables à notre avenir et on a lâché des territoires qui seraient cruciaux aujourd'hui. Donc, moralité, si on a tout raté, on est des losers. Si on est des losers, on n'est pas intéressant. Voilà l'enchaînement pour Donald Trump. Et donc, à partir de ce moment-là, quand il voit que les pays européens ne sont pas capables et les citoyens européens ne sont pas capables de se battre au sens économique du terme, pour les ressources cruciales, regardez un sujet, et là je sors un peu du livre, mais néanmoins on y est. Il faut quand même comprendre que la guerre en Ukraine se déclenche en 2022, mais en réalité, vous le savez, elle a démarré en 2014 avec l'annexion de la Crimée. 2014-2024, ça fait 10 ans. Pendant 10 ans, entre l'annexion de la Crimée et l'élection de Donald Trump en novembre 2024, l'Union européenne devient l'acteur essentiel de l'avenir de l'Ukraine. C'est évident. Les États-Unis, bien sûr, apportent leur soutien, mais l'Union européenne apporte un soutien absolument crucial à l'Ukraine. Et pendant ces 10 ans, les Européens ne sont même pas capables de signer un accord sur les terres rares avec l'Ukraine. Même pas capables. Pendant ces 10 années, les Européens ne sont pas capables de mettre, disons, de profiter de leur tutelle sur l'Ukraine pour, non pas s'accaparer, mais négocier l'accès aux terres rares. Pour Donald Trump, c'est un péché. Pour Donald Trump, ça prouve que vous n'êtes pas crédible. Si en 10 ans, vous versez des milliards sans la contrepartie des terres rares, c'est que vous êtes vraiment stupide. D'ailleurs, lui, qu'est-ce qu'il fait? Deux choses. Dès qu'il prend le pouvoir, il dit aux Européens, moi, je ne donne plus rien. Vous devrez acheter tout le matériel américain aux destinations de l'Ukraine. Donc, il n'y a plus de dons. Et d'autre part, il fait signer un accord sur les terres rares.
Oui, d'autant que, vous le dites bien, le mot-clé chez Trump, c'est « deal ». Et ça renvoie à une hostilité au contrat. Le contrat est européen, le deal est américain.
Voilà. Tout à fait, exactement.
Dans la troisième partie, qui s'appelle « Les Américains et nous », et qui est donc « Du rêve au cauchemar », là, vous nous placez, vous dites « L'Amérique est où nous sommes, nous aussi, face aux enracinés, face aux fanatiques, face aux menteurs et face aux conquérants ». Alors, le premier chapitre sur les enracinés, ça commence par une histoire assez cocasse de logo de Cracker Barrel. Et c'est une histoire, c'est pas qu'anecdotique, parce que ça, elle nous dit quelque chose. Il faut que vous nous expliquiez, Richard. Quand on est allé aux États-Unis, on sait ce que c'est que Cracker Barrel. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire et pourquoi tout d'un coup, ça, immédiatement, ça a irrité Trump?
Parce que Cracker Barrel, avec humilité, que je ne connaissais pas avant de ce tour des États-Unis, qui est une chaîne, on va dire, de ce qu'on appellerait les de magasins traditionnels.
Oui, c'est un peu des... Au Canada, on appelle ça des dépanneurs.
C'est ça. Mais alors, à la fois, ils vendent des produits de consommation, mais ils vendent aussi, je dirais, tout ce qui est la vieille Amérique, le rocking chair... le mobilier américain du Far West, etc. Et puis, bien sûr, la nourriture. Et Cracker Barrel, très réputé d'ailleurs pour leurs petits déjeuners matinaux, mais particulièrement calorique. Cracker Barrel a une vieille affiche qui est un vieux monsieur, le vieux tonton américain, qui est accoudé à un baril, vous savez, et qui fume sa pipe et qui attend le client. Eh bien, Cracker Barrel a voulu supprimer cela. Ont voulu supprimer cela et le remplacer par une autre enseigne. Et Trump s'est révolté parce que pour Trump, l'Amérique, c'est l'Amérique de Cracker Barrel. On ne touche pas à un certain nombre de symboles. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, là aussi, c'est intéressant. Nous vivons dans une Europe qui, pour des raisons peut-être pas défendables, d'ailleurs, posons le débat, qui a tendance à oublier ses symboles ou à s'affranchir de ses symboles. Eh bien, pour Trump, on ne touche pas au symbole de l'Amérique. Et c'est là le côté extraordinaire du personnage. C'est-à-dire qu'il est lui-même, par sa vie personnelle, en rupture complète avec cette tradition américaine, mais il continue de la défendre. Et c'est ce que son public aime chez lui. C'est-à-dire qu'on le crédite de défendre une Amérique qui, pourtant, n'est absolument pas la sienne.
Il y a une personnalité qui est tout à fait passionnante avec laquelle vous avez échangé beaucoup. C'est le maire de Santa Fe. C'est un maire démocrate. Il s'appelle Alan Weber. W-E-2-B-E-R. Alan Weber. Santa Fe, il faut vous rappeler quand même que... je me trompe tout le temps. C'est Nouveau-Mexique ou Texas?
Nouveau-Mexique.
Nouveau-Mexique, voilà.
Nouveau-Mexique.
Et c'est évidemment tout près de la frontière. Hein,
absolument.
Avec la pression, bien sûr, de l'immigration venant du Sud. Et alors, c'est tout à fait passionnant parce qu'il récuse votre thèse selon laquelle certains Américains détesteraient les Européens. Lui, il dit qu'il n'y a pas de divorce ou de séparation, mais juste un éloignement fatal. Et puis, il fait référence, et vous faites référence à un livre d'Elizabeth Kerr qui s'appelle « What you're getting wrong about the Appalachians ». Qu'est-ce que vous avez rien compris, en quelque sorte, à propos des Appalaches ? On en parlait des Appalaches à l'instant. C'est important parce que c'est au sujet des enracinés, là.
Oui, alors... Les Appalaches, d'abord, je commencerai par là.
Ouais, ouais.
Les Appalaches, c'est un bon résumé de l'Amérique actuelle. Et c'est d'ailleurs un État, la Virginie-Occidentale, qui autrefois était un État démocrate, un État minier, comme je l'ai dit, avec des mines qui ont cette caractéristique d'être au milieu de la forêt. Ce n'est pas les terrils industriels qu'on connaît dans le nord de la France. Et ce terreau démocrate, au fur et à mesure de la désindustrialisation et de l'arrêt des mines, certaines continuent encore, est devenu ce qu'on appelle un « purple state », un État violet, c'est-à-dire encore plus rouge que républicain. Il est complètement acquis à Donald Trump. Eh bien, dans les Appalaches, vous avez la légende J.D. Vance, puisque la maison de ses grands-parents était à l'extrême sud des Appalaches, à la frontière entre le Kentucky et la Virginie-Occidentale. Et donc, c'est cette Amérique laborieuse, c'est cette Amérique collective qui aime la famille. C'est pas du tout l'Amérique du cow-boy, du lonesome cow-boy de l'Ouest. C'est une Amérique qui est une Amérique communautaire, qui se réunit autour de l'Église. On n'est pas loin de la Bible Belt, vous savez, la ceinture de la Bible. C'est une Amérique qui travaille en famille. C'est une Amérique qui s'entraide. Les mines, c'est un symbole d'entraide s'il en est, parce qu'on sait les accidents qui peuvent intervenir. Et cette Amérique, elle était en quelque sorte en déshérence. Elle n'avait plus de repères politiques. Donald Trump est pour eux celui qui va les réunir autour d'un mot d'ordre. Et ça nous ramène aux hydrocarbures, drill, baby, drill.
Oui, oui.
Fort, baby, fort. Alors, on peut forer pour trouver du pétrole, on peut forer pour trouver du charbon. C'est cette idée qu'il va leur rendre, et là aussi, on rejoint Cracker Barrel, il va leur rendre leur mode de vie d'antan. Lui, le milliardaire qui vit dans un penthouse de 3 étages à New York, au sommet de sa tour, avec du stuc et de l'or partout. Lui, l'homme qui est à Mar-a-Lago, dans un golf fermé à tout le monde, il a réussi à faire croire à ces gens qu'il va leur rendre le mode de vie d'antan. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Et c'est pour ça que ce livre sur les Appalaches, parce que cet auteur, c'est une femme, ce qu'elle a voulu dire, c'est que tout ça est une supercherie. Elle aussi, elle est des Appalaches. Et elle dit, au fond, Trump a créé une sorte de rêve, de nouveau rêve américain pour ces gens qui en ont besoin. Va-t-il le réaliser ou pas? L'auteur pense que c'est très peu probable. Mais pendant un moment, pendant sa présidence, à coup de tarifs douaniers, à coup d'annonces, à coup d'investissements étrangers, eh bien, il réussit à rallumer cette flamme qui est ni plus ni moins, et là, il faut avoir beaucoup d'humilité et de compréhension, c'est la flamme de l'espoir. Et ça m'amène à parler d'Europe. C'est-à-dire que ce qui aussi nourrit la détestation de ces Américains pour l'Europe, c'est que nous sommes un continent qui a perdu espoir à leurs yeux, qui a perdu un certain nombre d'espoirs. Et eux, ils espèrent encore. Il se trouve que Donald Trump est l'incarnation de cet espoir.
Alors, ça nous fait passer aussi à l'échange ou à la confrontation face aux fanatiques. Je termine sur les enracinés en rappelant, c'est un point important aussi, l'importance des Appalaches, y compris dans la culture musicale américaine. Vous vous souvenez, ces longues suites d'Aaron Copland, absolument magnifique, Appalachian songs là.
Tout donc, à fait.
On touche à l'ancienneté de la mémoire plutôt d'ailleurs des 13 premières colonies, hein, pas.
Oui.
Effectivement, vous disiez c'est pas l'Ouest.
C'est juste.
Voilà.
Non, c'est pas la fuite à l'Ouest.
Voilà. Alors les fanatiques. Alors là, c'est assez passionnant puisque vous avez un échange avec un pasteur évangéliste itinérant qui s'appelle Dan Booth.
Oui.
Et alors lui, il dit mais nous Nous, on est toujours en quelque sorte des missionnaires. On aime convaincre. Il y a une forme de prosélytisme religieux. Alors, ça nous renvoie bien sûr à Tocqueville, sur l'importance de la communauté religieuse. Mais alors là, on a compris qu'il y a une exacerbation du phénomène religieux. Alors, c'est d'autant plus surprenant que, jusqu'à preuve du contraire, la spiritualité métaphysique de Donald Trump, elle est relativement limitée quand même. Mais là, il y a une forme de
l'envie. Là encore, c'est le génie politique du personnage. Il faut mettre des guillemets. Mais Donald Trump a réussi. Vous imaginez quelqu'un qui a eu 3 époux, quelqu'un dont la vie personnelle est quand même relativement dissolue, les procès l'ont montré, les révélations l'ont montré. Eh bien, il a réussi, aux yeux de ces Américains traditionnels, protestants, très attachés à leur Église.
Dévots. Apparaître... Ce sont des dévots.
Dévots, absolument, des bigots. Eh bien, il a réussi à incarner une nouvelle chance. Et pourquoi ? Pour une raison assez simple, c'est que Donald Trump, au fond, respecte toujours la loi du plus fort. Donald Trump n'est pas un contestataire. Donald Trump, c'est quelqu'un, si vous êtes riche, vous êtes puissant, c'est normal. Donc, si vous êtes patron d'une église, vous devez, les fidèles vous doivent l'obéissance. Au fond, c'est cette question de l'obéissance qui est au cœur du trumpisme. Il y a des gens qui sont là pour guider, et il y a des gens qui sont là pour se faire guider. Voilà, c'est là où moi je vois, c'est mon interprétation personnelle, c'est là où je vois le lien entre Trump et toutes ces églises, c'est qu'il distille un message d'obéissance et il distille aussi, ne l'oublions pas, un message de suprématie blanche. Ce sont des églises majoritairement chrétiennes blanches dans ces zones et ce sont des églises qui redoutent le catholicisme ou des latinos, ou bien le côté des évangéliques. Et par conséquent, Trump leur apparaît comme une garantie, comme une forme de bouclier.
Alors, ce sont aussi, dites-vous, des menteurs. Et là, il y a un chapitre qui est tout à fait passionnant, avec la figure d'un héros ou anti-héros de la guerre du Vietnam. Il s'appelle John Paul Van. Il va mourir dans un accident d'hélicoptère en 72 sur les hauts plateaux vietnamiens. Et il a fait l'objet d'une biographie de Neil Sheeman, dont vous dites que la traduction en français n'est pas tout à fait exacte par rapport au titre anglais. Je vous laisse donner la traduction littérale. Alors, en anglais, c'est « A Bright Shining Lie ». Donc, je vous laisse dire, Richard, ce que c'est. Mais c'est intéressant, ce passage sur le mensonge, parce qu'on voit que c'est la fameuse histoire de l'homme qui tue à Liberty Valance, film mythique de John Ford en 62. Alors, il y a un débat, c'est est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est la réalité ? Et plus belle que la légende, imprimer la légende. C'est pas pareil, la réalité, la vérité.
C'est vrai.
Mais alors, c'est qui ce Van ?
Écoutez, là, je trouve que c'est très touchant, ça me touche beaucoup, Jean, que vous ayez... que vous citiez ce chapitre, parce que c'est sans doute le chapitre le plus personnel du livre. Parce que John Ponvan est pour moi une figure américaine mythique. Il se trouve que j'étais jeune correspondant en Asie du Sud-Est, après la guerre du Vietnam, pas pendant la guerre du Vietnam, et que j'ai découvert cette figure lors de la sortie du livre de Neil Sheehan. A Bright Shining Lie, qui est le titre original en anglais, ça veut dire un si brillant mensonge. Et en français, l'éditeur, il me semble que c'était Le Seuil, a vérifié, l'a traduit par l'innocence perdue. L'innocence perdue, ça n'a rien à voir. L'innocence perdue, ça veut dire que, ben voilà, vous étiez innocent et vous l'avez perdu parce que les épreuves font que vous avez découvert ce qu'est le vrai monde. Un si brillant mensonge, ça veut dire que vous avez sciemment menti et que vous avez argumenté, vous avez construit ce mensonge. Et c'est pour ça qu'à mon avis, la figure de John Paul Van est intéressante. Pourquoi ? John Paul Van était un officier américain. Alors là, je pourrais en parler des heures. John Paul Van était un officier américain, lieutenant-colonel, je crois qu'il a fini colonel, qui était très rebelle à l'égard des structures de l'état-major, mais qui était très brillant. Et qui donc a trouvé au Vietnam le terrain idéal, puisque quand il y a une guerre de ce type, eh bien, on laisse un certain nombre d'esprits brillants opérer, mais on les limite, on les cantonne, parce qu'on connaît leur hostilité vis-à-vis de la hiérarchie. Et John Paul Van, qui parlait beaucoup aux journalistes, qui était d'ailleurs très apprécié aux journalistes, il a mené une guerre dans laquelle il ne croyait pas. Il a mené une guerre pour une Amérique dont il connaissait les défauts, les faiblesses, voire les mensonges. Et c'est en ça que c'est très intéressant. C'est-à-dire que voilà l'archétype aujourd'hui d'un Américain qui a mené, qui a construit sa vie autour du mensonge. Et ce que je redoute aujourd'hui pour les Américains, ce sont les John Paul Van d'aujourd'hui, oui. Les John Paul Van de 2025. Ça ne veut pas dire que ces gens ne sont pas brillants, pas intelligents, pas honnêtes. Ça veut simplement dire que la machine qui se met en place aux États-Unis peut, à un moment donné, les forcer à mentir.
Mais c'est...
peut les forcer...
C'est, vous faites référence là, c'est pas dans le livre, mais à cette réunion surréaliste avec les 800 chefs militaires de l'armée américaine, toutes armes confondues, réunis à Quantico, l'académie du FBI, où je sais plus si c'est Trump lui-même, je crois, ou Exet, mais je crois que c'est Trump qui leur dit en gros, maintenant va falloir maigrir hein, parce que moi, d'abord, je veux pas de barbu, faut maigrir, faut faire du sport. Et ils sont absolument effarés, tous silencieux. Il n'y en a pas un qui bronche, c'est ça.
Et il leur dit surtout en rigolant sans rigoler, parce que la salle est particulièrement silencieuse quand il arrive. Il leur dit, j'ai jamais connu de salle aussi silencieuse. Vous n'oubliez tout de même pas que votre carrière dépend de moi.
Ouais, c'est ça. Ça, c'est la peur.
C'est, exactement ça. Donc, moi, mon inquiétude pour l'Europe, c'est que nous ayons en face de nous des John Paul Van, c'est-à-dire des officiers américains qui soient intelligents, mais qui, pris dans un système mensonger, finissent par mentir aussi.
Je voudrais qu'on termine, parce que malheureusement, on pourrait parler de longues minutes encore, Richard, de ce livre passionnant, par une citation... qui est à retenir parce que elle est de Anne Applebaum. Anne Applebaum, c'est une essayiste américano-polonaise, mais je ne sais pas si vous savez, c'est la femme du ministre des Affaires étrangères polonais qui s'appelle Sikorski.
Radoslav Sikorski.
Radoslav, et qui est vice-premier ministre du gouvernement polonais. Et c'est une grande intellectuelle à la Penbaum qui a beaucoup écrit aussi d'ailleurs sur la Shoah en Pologne. Elle dit ceci, l'autoritarisme séduit tout simplement les personnes qui ne supportent pas la complexité. Cet instinct n'a rien d'intrinsèquement de gauche ou de droite. Il est anti-pluraliste. Il se méfie des personnes qui ont des idées différentes. Il est allergique au débat animé, que ceux qui le partagent tirent finalement leur idéologie du marxisme ou du nationalisme n'a aucune importance. Il s'agit d'un état d'esprit, pas d'un ensemble d'idées. Et là, elle dit clairement cet autoritarisme-là, puisque c'est c'est celui des conquérants. Hein, et on a vraiment affaire à des conquérants. Alors, on va terminer en retournant votre livre et en regardant la quatrième de couverture, puisque le petit badge ici, qui ressemble à un badge électoral, Richard Verli, l'auteur, eh bien, on voit là, ici, Fuck Europe, hein, puisque c'est le titre de votre conclusion. Ça fait référence à une réflexion de Victoria Nuland, qui a été ambassadrice des États-Unis sous Obama, d'ailleurs, en 2014. Oui. Mais c'est la femme de Robert Kagan, quand même. C'est pas rien, parce que Robert Kagan, c'est aussi un des grands idéologues. Robert Kagan, qui disait « Les Américains sont de Mars et les Européens de Vénus
oui. ».
Ça dit beaucoup de choses, ça, dans la phrase. Vous dites, selon le langage de Trump, ça c'est page 71, nous les Européens sommes bel et bien fucked, baisés, entubés, trompés. Pardon pour le vocabulaire, mais pourquoi vous avez choisi ce titre de conclusion?
Ouais, d'abord parce que fuck, c'est quand même un mot que vous entendez inévitablement aux États-Unis,
oui, tout le temps.
Dans les conversations ordinaires. Mm-hmm. Et ensuite, parce qu'à travers le propos de cette ambassadrice, Victoria Nuland, lorsqu'elle était ambassadrice des États-Unis auprès de l'OTAN, c'est-à-dire de l'Alliance Atlantique, quand elle dit dans une conversation « fuck Europe », ça veut dire au fond « on n'en a rien à foutre des Européens ».
En 2014.
Voilà. Et je crois que ça résume bien la situation. C'est-à-dire que nous sommes dans cette situation où les Américains n'en ont rien à foutre de ce que nous sommes. Et c'est pour ça que j'ai dit « ils nous détestent ». Parce que quand vous aimez quelqu'un, Vous vous préoccupez de son devenir. Ça ne veut pas dire que vous êtes en accord avec tout, mais vous vous préoccupez de son devenir. Et surtout, vous êtes à ses côtés. Ces Américains-là n'en ont rien à faire de l'Europe. Ils pensent que les Européens ne sont là, encore une fois, que pour obéir. Et comme l'a très bien fait Mme von der Leyen en Écosse au mois de juillet, lorsqu'elle a conclu le deal commercial, elle a quand même réussi cette prouesse. D'abord, un, de rendre visite à M. Trump sur son golf privé pour signer un accord international. Deux, de lui dire merci et non seulement merci, mais d'expliquer qu'il était normal pour l'Europe de rééquilibrer ses relations commerciales avec les États-Unis. On ne voit pas en quoi c'était normal, mais elle a pris le parti des États-Unis. Et enfin, dernière chose, elle a sans cesse expliqué qu'en plus de l'accord commercial, l'Europe paiera pour l'énergie, paiera pour des investissements. Et bien là, on a le triptyque du résultat du « fuck Europe ». Les Américains n'en ont rien à foutre de nous, sauf si on paye, si on dit merci et si quelque part on se laisse ligoter par eux. Avouez quand même que ce n'est pas un avenir très radieux.
Alors, on se rend compte, donc, en lisant cette Amérique qui nous déteste, que le Suisse très calme et modéré que vous êtes peut avoir des coups de colère, des coups de sang et être mobilisé. Il y a un rendez-vous important, c'est en 26, 250e anniversaire de la fondation des États-Unis, d'à peu près de la même génération. Richard, quand j'ai été étudiant, je suis allé aux États-Unis pour la première fois pour le bicentenaire en 1976. Et effectivement, on voit bien que pour Trump, c'est un rendez-vous qui est tout à fait essentiel, avec une sorte d'analogie d'ailleurs. Vous savez que la Chine, là, que pour le coup, Trump craint vraiment, et qui réagit d'une toute autre manière à l'augmentation des tarifs douaniers américains, en disant si c'est 100, nous, Chinois, ça sera 150. Comme ça, on va voir qui va céder. Eh bien, la Chine a un grand rendez-vous, c'est 2049. Et là, on voit que pour Trump, c'est déjà 2026. Voilà.
Tout à fait. 2026, année des midterms, les élections de mi-mandat. Ouais. Année aussi, vous l'avez dit, des festivités du 250e anniversaire. J'allais dire, ce qu'on voit jusqu'à maintenant, à mon avis, ce n'est que le tour de chauffe du grand spectacle Trump. Le vrai spectacle, ce sera celui de 2026, parce qu'il y aura en plus l'enjeu politique de la continuation de son mandat. Exactement. Il veut conserver le contrôle des deux chambres au Congrès. Et ça, la bataille va être rude. Et croyez-moi, en tout cas à mon sens, les Européens n'ont qu'à bien se tenir.
Merci beaucoup, Richard. Cette Amérique qui nous déteste, et c'est aux éditions Nevicata, dont vous êtes d'ailleurs directeur de collection. Merci beaucoup.
Merci, Jean.
Merci, Richard.